vue d'ensemble de l'actualité.
450 000 chirurgies par année, dont à peu près 40 000 par mois. On en a 90 000 à rattraper. On ne rattrapera pas ça dans deux mois, M. le Président. Alors, on a un plan très clair avec la FMSQ, avec notre ministère, mais on doit avoir le personnel infirmier pour remplir nos salles.
Drainville PM.
Vous l'avez entendu, Christian Dubé, le ministre de la Santé. Donc, il dit on a un plan pour récupérer les 90 000 chirurgies qui ont été annulées. Le docteur Martin Champagne est président de l'Association des médecins hématologues et oncologues du Québec. Bonjour, docteur Champagne.
Bonjour, M. Drainville.
Bon, ben, là, on parle de chirurgie. Très bien. Puis, il y a des chirurgies, évidemment, à caractère oncologique, là, des chirurgies, là, par exemple, pour enlever un organe qui est atteint du cancer. Mais il y a également tous ces traitements contre le cancer, il y a eu des rendez-vous qui ont été annulés. Faites-nous un petit peu le portrait de ce qui arrive aux personnes qui avaient ou qui ont un cancer et qui n'ont pas pu peut-être être traitées ce printemps. Est-ce qu'il y a... Moi, je vais vous dire, là, je vais être bien honnête avec vous, là. J'entends parler de personnes pour qui c'est maintenant trop tard, là.
En fait, la situation, les répercussions de la première phase de la COVID sont dramatiques, ça, il est certain. On n'a pas de données claires. Ce qu'on sait, cependant, parce qu'elles n'existent pas. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'il y a eu beaucoup de retard. Il y a eu beaucoup de retard dû à toutes sortes de raisons, difficultés d'accès aux médecins en première ligne, difficultés d'accès aux tests d'imagerie. Et certainement, une fois que la phase de la COVID, puis ensuite on a mis à l'arrêt toutes les interventions chirurgicales jugées non urgentes là, pendant plusieurs mois, de plus de deux mois, là, au mois de mars à avril. Mmh. Ce qu'on sait, c'est que depuis ce temps-là, la reprise, elle est lente. La plupart des hôpitaux du Québec sont vétustes. On a un problème dans l'organisation des hôpitaux. Par exemple, si vous prenez un hôpital où il y a une salle d'attente commune pour le service de radiologie qui va desservir deux salles d'échographie, une salle de résonance, une salle de scan. Mais on peut pas asseoir comme on le faisait avant 15 ou 20 patients en attente qu'une place se libère dans une des salles. Il faut mettre les rendez-vous en contingence pour que les gens soient ne se chevauchent pas ou ne se fréquentent pas dans la salle d'attente. Alors, ce qui fait que c'est beaucoup plus lent, tout est lent à reprendre les activités. Ouais. Un hôpital, vous avez vu dans la presse la semaine passée, on disait que Sacré-Cœur fonctionnait avec une réduction de 30 % de sa capacité d'accueil des patients hospitalisés. C'est vrai dans plusieurs hôpitaux. Alors, présentement, c'est ce qu'on constate, en fait, le drame, c'est qu'au cours de l'été, non seulement on n'a pas comblé de retard, mais on a pris du retard donc pour l'ensemble des chirurgies au Québec. Alors, oui, c'est un drame.
Quand vous me dites chirurgie, là, vous me parlez de, comme oncologue, là, vous me parlez de chirurgie là, de personnes qui ont un cancer, c'est bien ça?
Pour l'ensemble des chirurgies. Alors, si vous regardez les statistiques purement, les statistiques des patients en attente de chirurgie pour cancer, il ne semble pas y avoir eu d'accumulation. Mais on peut soupçonner que beaucoup de patients sont en amont de tout ça. Les deux exemples principaux, c'est qu'on a arrêté en mars les programmes de dépistage du cancer du sein et du cancer du côlon. Donc, détection de sang occulte dans les selles. Si vous avez un test positif, on vous envoie pour une coloscopie. Présentement, on n'a pas récupéré. Donc, il y a une portion de patients, 10 % des cancers. Un cancer sur 10 est diagnostiqué chez quelqu'un qui est asymptomatique, donc essentiellement par les tests de dépistage. Donc, présentement, ces programmes-là étant à l'arrêt, on ignore où sont les patients. On ignore où sont les patients. Ils existent. On sait qu'ils existent. Mais présentement, ils n'ont pas accès. Ils n'apparaissent sur aucune liste puisqu'ils n'existent pas. Ils sont dans un néant à cause de l'arrêt des programmes. Alors, il faut reprendre les programmes de dépistage en oncologie. Il faut évaluer le nombre d'endoscopies, donc les tests pour voir le côlon, pour voir la vessie. Donc, ça, qui permettrait véritablement d'évaluer le retard qu'on a, parce que les patients, comme je vous mentionne, n'apparaissent pas sur les listes de retard.
Ils n'apparaissent pas parce qu'ils n'ont pas subi les tests de dépistage.
Puis, c'est ça. D'autre part, il y a des chirurgies qui sont plus faciles à organiser, si vous permettez l'expression facile, là. Par exemple, cancer du sein, ce sont des chirurgies qui se font en chirurgie ambulatoire. Vous rentrez le matin, vous ressortez l'après-midi, dans la très, très grande majorité des cas. C'est pas le cas pour les cancers digestifs ou pulmonaires, où vous avez besoin d'un lit d'hôpital. pour quelques jours. Alors, présentement, je vous ai parlé d'une capacité restreinte dans les hôpitaux, donc d'accueil pour des patients qui nécessitent des hospitalisations. Donc, certains types de chirurgie vont davantage souffrir que d'autres les délais d'attente pour ce qui est de l'oncologie. Alors, pour répondre à votre toute première question, oui, on voit des patients avec des maladies plus avancées. Les patients sont très symptomatiques quand ils nous consultent, quand ils arrivent dans les salles de chimiothérapie ou dans l'évaluation pour une chimiothérapie. On voit des cancers plus avancés que ce à quoi on s'attend. Et ça, c'est l'observation, bien encore une fois qu'on n'ait pas de données, l'observation qui est rapportée par l'ensemble de mes collègues au Québec.
Et est-ce que dans certains cas, vous vous dites, le cancer a tellement avancé qu'il n'y a plus rien à faire?
Il arrive qu'il y ait des patients qui étaient effectivement, possiblement visés curatifs, puis maintenant on est à visée palliative. Vous savez, le problème, c'est que aussi le prix à payer va être là pendant des années. Il y a eu des études épidémiologiques qui suggèrent un excès de mortalité par le cancer qui pourrait être aussi grand que 15% par année pour les 10 prochaines années. En raison des délais, si vous aviez une maladie qui était un stade 1 ou un stade 2, maladie peu avancée, vous aviez des meilleures chances de guérison que lorsque vous avez été diagnostiqué avec une maladie de stade 3, par exemple, qui est plus avancée. Donc, cette perte d'opportunité, là, des chances en termes de guérison, va se traduire par un impact majeur sur les ressources en oncologie pendant des années.
Vous me dites, on pourrait prendre combien d'années pour récupérer?
Ben, en fait, ce que je vous dis, c'est que l'excès de mortalité va se faire sentir pendant des années. On peut estimer que ça peut durer jusqu'à 10 ans. Écoutez, pour ce qui est de la reprise chirurgicale, Dix, le ministre de la Santé de Colombie-Britannique, qui a été beaucoup moins atteinte que nous autres, avait déclaré quelque part vers le mois de juin, là, ma mémoire est pas précise à cet effet-là, mais que ça prendrait 18 mois à la Colombie-Britannique pour rattraper le retard qui avait été dû à l'arrêt des activités dans le cadre de la COVID.
Alors, si ça le prend donc, 18 mois en Colombie, ça pourrait nous prendre peut-être plus de 2 ans au Québec, là.
Ben là, si on avait un plan connu de nous, on pourrait savoir avoir un estimé, mais présentement, on peut pas dire que le gouvernement pêche par transparence à cet effet.
Mais le ministre, vous l'avez entendu comme moi, il a dit qu'il y en avait un plan.
Ah ben, écoutez, on a entendu la même chose au fédéral, quelqu'un qui s'est fait élire il y a quelques années qu'il avait un plan, mais on sait pas toujours à quoi s'en tenir. Alors, il peut bien avoir un plan, mais il faut que ça se traduise par du concret dans les hôpitaux, là.
Donc,
de ressources physiques. Il faut établir, il y a beaucoup de patients qui se sont pas présentés durant la première phase de COVID parce qu'ils craignaient pour leur sécurité. Ouais. Alors, on a créé dans les zones hospitalières des zones blanches, c'est-à-dire exemple de COVID. Si vous êtes hospitalisé dans telle unité de soins, on a fait un dépistage, vous avez pas la COVID, on prend les précautions d'usage, mais on n'est pas dans une zone où on risque énormément d'être contaminé. Il faut faire la même chose pour les patients qui ont des bilans. Faut avoir des instituts ou des endroits où on peut envoyer en toute sécurité le patient. Okay. Alors, présentement, c'est très variable au Québec.
Dr. Martin Champagne, président de l'Association des médecins hématologues oncologues du Québec, merci.
Bonne journée.
Est-ce que vous faites partie de ceux ou de celles qui ont connu un retard, vivent un retard, une chirurgie qui a été reportée? Je ne sais pas, il y a peut-être parmi vous des personnes qui vivent une certaine anxiété. 790-9850, 98985 par texto de Drainville, en commercial 985FM.ca. OK, on va aller à vos appels, 790-9850. Thierry, bonjour.
Bonjour, M. Drainville. Vous m'entendez bien?
Je vous entends.
Bon, moi, le 19 mars, on avait un rendez-vous avec mon garçon pour un kyste qui grossissait sur la glande thyroïde. On était supposé se faire opérer en urgence la semaine du 24 mars. On était retardé jusqu'à la fin juillet. À cause de ça, ils ont été obligés d'enlever la glande thyroïde avec certains ganglions parce que ça allait tellement grossir. Oh. Puis l'impact de ça, c'est qu'aujourd'hui, mon fils est handicapé. À cause de ça, mon fils doit prendre du synthroïde le restant de sa vie. Oh. Mais il n'est pas autonome. Donc, il va dépendre de toujours quelqu'un qui va devoir lui donner cette cellule-là le restant de sa vie, simplement parce qu'on a eu des délais. La raison qu'il nous disait, c'était qu'il n'acceptait pas les accompagnateurs. pour les enfants ou pour les enfants handicapés ou les personnes qui avaient besoin d'accompagnement. C'est pour ça qu'il y a eu tout ce délai-là. Sinon, on aurait été opéré beaucoup plus rapidement que ça. Moi, j'aimerais porter juste une remarque. Moi, j'ai été là. La première fois, on nous a appelé pour nous dire « Venez-vous-en, il n'y a pas de problème. » Évidemment, à la fin de la journée, ils nous ont dit qu'il n'y avait pas de place. Ils nous ont retourné à la maison. Pendant cette journée-là, il y a une dame à côté de moi qui a eu un accident. Elle a dû se faire opérer d'urgence pour un bras. L'infirmière lui a dit « Je vais te faire un test de COVID. Tu vas avoir ton résultat dans une heure. » Moi, je me pose la question. Pourquoi qu'à l'hôpital, on a un résultat de COVID à l'intérieur d'une heure, mais quand on va se faire tester, ça prend de 24 à 48 heures si tout va bien? Celle-là, j'aimerais ça que quelqu'un me l'explique.
Ben, mon hypothèse, c'est que le laboratoire, il y a des hôpitaux qui ont des laboratoires qui peuvent analyser les échantillons. Et l'hôpital où vous vous trouviez, il y a un laboratoire comme celui-là. Donc, ils doivent avoir une espèce de voie rapide pour les tests qui sont faits à l'hôpital sur place.
Je suis d'accord avec vous, M. Drinville, mais nous, ils nous ont fait aller dans un autre endroit pour nous faire tester à deux reprises avant l'opération, alors qu'on aurait pu très bien aller là. Comprenez-vous qu'à un moment donné, c'est du délai par du délai puis du délai. Bon, évidemment, il n'est pas en danger de mort, mais il reste que à cause de cette période-là, ben mon fils a un médicament le restant de sa vie.
Ouais, je suis vraiment désolé, Thierry. Je vous sens un peu irrité. Si j'étais à votre place, je pense que c'est une colère contenue, hein.
Moi, je suis irrité aussi. C'est pas juste à cause de ça, parce que je peux vivre avec le fait. Mais je suis tanné d'entendre que les infirmières sont débordées. Puis c'est vrai qu'ils sont débordés. Puis c'est vrai qu'il y en a beaucoup qui ont démissionné. Mais nous, quand on est allé à cet étage-là, là, on était trois pour une journée de bloc opératoire. M. Drinville, il devait avoir à peu près... L'étage était complètement vide. Il devait avoir 10 à 12 personnels qui étaient assis, qui attendaient parce qu'ils ne voulaient pas remplir, parce qu'ils attendaient toujours de voir qu'est-ce qui arriverait avec la COVID pour libérer les lits. Mais à un moment donné, là, ceux qui sont en attente de cancer, tout ça, comme le monsieur avant vous l'a dit, moi, mon médecin spécialiste m'a dit clairement, Thierry, s'il y a une deuxième vague, on l'échappe complètement à ceux qui ont des cancers, complètement. On est déjà à 70 jours au lieu que la loi pour des cancers graves, c'est 30 jours d'opération. On est à 70 jours actuellement. Fait qu'on ne s'en va pas du bon côté actuellement.
Merci Thierry, bonne chance.
Au plaisir, merci.
Claude, bonjour.
Bonjour, M. Drinville.
On vous écoute.
Moi, j'ai 78 ans, je vis seul. J'ai une liste d'attente pour les cataractes depuis le fin janvier. J'étais déjà sur une liste d'attente avant le corona. Là, il n'opère plus dans le moment. Moi, je vis seul, comme je vous dis. Moi, je suis au bout du café instant. Là, mon café goûtait jamais la même chose. Je vois pas comment j'en mets dans la cuillère. Je marche avec 5 flashlights, des petits flashlights rondes. J'en ai une sur mon micro-ondes, une sur mon frigidaire, une dans la chambre, une dans la toilette, puis une à côté de moi sur ma table. Je roule avec ça. Puis là, je sais bien, c'est pas le cancer. Mais moi, comme je vous dis, je vis seul, là. Si je pas, je regarde le hockey, je vois plus rien.
Et puis là, qu'est-ce qu'ils vous ont dit, Claude? Est-ce qu'ils vous ont donné une nouvelle date?
Ben, j'ai appelé l'ophtalmologiste, j'ai parlé à sa secrétaire la semaine dernière. Elle dit c'est possible qu'il recommence fin septembre. Ben, venez-vous. Puis là, ça se peut qu'on aille une deuxième vague.
Là c'est les deux yeux, là, visiblement, là, c'est les deux yeux.
Les deux yeux.
Ah,
et,
c'est pas...
ça l'aggrave à chaque jour, là.
Ah, Claude, j'espère qu'ils vont vous trouver une place. Ah, j'aurais le goût de...
Monsieur Drinville, je ne vais pas me ramasser une SHSLD. Je vais passer à d'autres choses avant ça.
Non, faites pas ça. Gardez espoir, Claude. OK, gardez espoir. Raccrochez pas, OK? Raccrochez pas. Alexandra va vous parler, OK? Claude, oui. Bougez pas, là. Raccrochez pas, Alexandra va vous parler. OK, on s'en va à la pause. Ah, ça me fait de la peine, ces histoires-là.